L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Bernard Vacherot, bonjour.
Salut, bonjour Jean.
On finissait la dernière émission en disant que ce coup-ci, on allait démarrer en faisant le point sur les techniques du livre avant l'invention de la typographie, puisque par définition, la religion, c'est les écritures.
Puisqu'on est toujours tout à fait, il y a l'écriture et ça compte à 100%, et en plus l'écriture sainte. Tu as raison de souligner.
Alors, vous disiez que l'école était prise en charge dans les monastères.
Oui.
Le support, c'est évidemment le livre. Alors, quelles étaient les techniques d'enluminure, de copie et de tout ça?
Alors, justement, on a déjà un petit peu évoqué. Il y avait les différentes formes d'enluminure, à la plume, aux encres rouges, etc., qu'on a évoqué, aux encres noires, la peinture elle-même. Et bien sûr, les célèbres dorures que l'on mettait sur les petites enluminures. Alors, ces ouvrages qui étaient donc l'œuvre de copistes, à la main, comment étaient-ils enfermés? La plupart du temps, dans des rouleaux. Alors, je parle des très, 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 très anciens, avant même les formes de reliure, ils étaient enfermés dans des boîtiers de métal précieux. Ça allait du cuivre qu'on avait doré jusqu'à l'argent pur, eux-mêmes ornés de camées. Alors les camées, ce sont des petits médaillons, très petits, souvent d'origine romaine, qui ont été arrachés à des pièces d'orfèvrerie romaine d'époque empire ou de bas empire. Si vous voulez voir de ces camées, vous pouvez aller soit au musée des médailles à Toulouse, bien sûr, au musée des médailles à Paris, évidemment aussi, et puis vous pouvez plus régionalement ici, chez nous, aller voir le trésor de l'église de Bouillac, et vous verrez des camées sur des reliquaires anciens, surtout du XIIIe, offerts par le frère du roi Saint-Louis. Alors, ces camées, donc d'origine romaine, étaient la plupart du temps sur des pierres plus ou moins précieuses. Par ailleurs, en dehors des camées, on ajoutait aussi justement des pierres précieuses auxquelles étaient attachées souvent des vertus magiques ou des symboles chrétiens, voire ésotériques ou encore alchimiques. Vous savez, l'origine du mot alchimie, c'est d'origine arabe, tout particulièrement égyptienne, alchimia, c'est-à-dire la chimie. Et cette alchimie a été pratiquée par les gréco-romains dans un but de transmutation spirituelle, sorte de passage de l'état du plomb à l'état d'argent, de l'état de ténèbres à l'état de lumière, de l'état d'ignorance à l'état de connaissance initiatique. Donc vous voyez, il y avait une idée qui était de dire que le lecteur va passer, grâce à cette lecture, hagiographique la plupart du temps, de la ténèbre de son ignorance à la connaissance et donc à la révélation. Alors, vous voyez le lien qu'on faisait là entre cette espèce d'alchimie et le spirituel chrétien. Alors, quant à l'usage de pierres en rite magique ou religieux, il apparaît que cela a commencé durant la préhistoire. Durant la préhistoire, et nombreuses sont actuellement les thèses de préhistoriens variables selon les localisations géographiques du globe. On retient surtout le lien terre-divinité, force cosmique, tellurique, naturelle, animale, humaine. Prenons un exemple. Si l'on fait remonter la célèbre table d'émeraude aux écrits d'Hermès Trismégiste, Hermès le trois fois saint, oui, ça vient de Tris, trois, hein, Trisaion, trois fois saint, hein, en grec, ouvrage dont la rédaction première remonte au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et fut poursuivi jusqu'au quatorzième après Jésus-Christ, par l'entremise des gnostiques, c'est-à-dire de chrétiens, qui rédigeaient en grec la plupart du temps, puis souvent retraduisaient en latin pour les plus récentes œuvres du Moyen-Âge, voire parfois même en langue vernaculaire, comme le français, l'anglais, etc. Alors on peut penser que la vulgarisation très très limitée et fermée en milieu d'initiés religieux ou savants, souvent les deux, intervint après les premières croisades, donc entre 1099, année de la fin de la première croisade, et 1149, année de la fin de la seconde croisade, et que les chevaliers du Temple, comme ceux de Saint-Jean de Jérusalem, les chevaliers de Malte, y eurent une très grande part, ainsi que les moines ayant été eux-mêmes en croisade en Orient ou en contact alors avec certains moines orientaux, lesquels avaient souvent frayé avec les gnostiques chrétiens. Alors n'oublions pas non plus les énormes apports à ce sujet des écrits juifs anciens, comme ceux de la Kabbale, aux origines bien antérieures au christianisme, remontant approximativement à la mystique juive de la période du Second Empire, c'est-à-dire peu après 515 avant Jésus-Christ, et plus vraisemblablement encore durant l'exil de Babylone, entre 598 avant Jésus-Christ et 538 avant Jésus-Christ. Or, sachons-le bien et n'oublions pas, Jean, que la colonie juive fut très présente en Gaule et en Espagne depuis l'exode massif conséquent à la disparition d'Israël en l'an 135 après Jésus-Christ, et ce jusqu'à la fin du XIVe, même pour le sud de la France, et jusque au XVIIIe siècle pour tout le reste de l'Europe. Bon, par exemple, ne pas oublier que, au cours du XIVe siècle, à Verdun-sur-Garonne, chez nous, en Tarn-et-Garonne, il y eut beaucoup de prisonniers juifs et que certains d'entre eux furent massacrés. Je recommande là-dessus de lire le très intéressant ouvrage étude de l'abbé Georges Passera sur les Juifs présents et enfermés à Verdun-sur-Garonne. Alors, cette affaire-là s'est prolongée et on ne peut pas non plus ignorer l'apport musulman en Espagne et en Gaule entre 714 et 732. Je devrais dire surtout 711, quand les Espagnols ont commencé d'être envahis par les musulmans. Je préfère dire cela par rapport au terme arabe, parce que ceux qui ont envahi, c'était surtout des Kabyles, hein, des peuples Kabyles. Voilà, 711 et 732. Apport qui se prolongea jusqu'à, par la suite, la fin du XIVe, en région narbonnaise. N'omettons pas non plus de parler des contacts occasionnés entre occidentaux chrétiens et musulmans, parce que s'il y a eu, l'arrivée, l'invasion musulmane en terre dite chrétienne, il y a eu aussi beaucoup d'échanges volontaire, librement consenti, entre des chrétiens intellectuels et des musulmans intellectuels. Alors, cela, en particulier, a été bien mis en cheville, bien mis en relation, ces gens-là, grâce au concours des Templiers et des Chevaliers de Malte, ainsi que de moines itinérants, comme par exemple François d'Assise, qui un jour, rencontrant au cours d'une croisade le sultan Al-Malek El-Kamil en Égypte vers 1220, a tenté de provoquer un dialogue islamo-chrétien. Malheureusement, il n'a pas été suivi par les chrétiens, et c'est d'autant plus dommage que le sultan Al-Malek, séduit par le personnage de François d'Assise, et voulant le protéger, lui avait donné une escorte pour qu'il puisse revenir auprès de ses chefs à Jérusalem. C'est dire le raté qu'on a fait là, malheureusement, en refusant le dialogue. Alors, par la suite, eh bien, on peut dire que l'un des rapports a été aussi au niveau de l'alchimie. Je vous ai dit tout à l'heure l'origine étymologique du mot d'alchimie, ne revenons pas dessus. Alors, en tout cela, nous voyons l'histoire de l'apparition du symbolisme des pierres ornementales qui sont sur les fermoirs ou les boîtiers de métaux précieux contenant les livres sacrés, Bible et évangélières, voire même des hagiographies de vie saint. Enfin, pour les Bibles et évangélières, ce genre de coffret s'est surtout pratiqué entre les 5e et 8e siècles. Ça s'est poursuivi beaucoup plus tard encore, mais de manière différente. Hein.
Bernard Vacherot, oui. On marque une toute petite pause.
Oh oui, si
on
vous voulez.
Juste après.
D'accord.
Sunjata Keita Ambifora Mandi Sarata Milani Mandi Kalusawani Sunjata Keita Ambifora Mandi Sarata Milani Mandi Kalusawani Dolu Kwama Sugulunjata Dolu Kwama Manganjata, Dolupama, Sugosu Simbo, Dolupama, Mandenjara, Sunjata, Ambifora. Nous te remercions pour la victoire de 1235 à Pirena, Sunjata, Ambifora. Ton ancêtre s'appelle Bilal Boulama. Boulal Boulama, suivi de la Wallon. La Wallon a été suivi de la Talkalabi. La Talkalabi, Damal Kalabi. Damal Kalabi, Laylatul Kalabi. Laylatul Kalabi, Kalabi Bomba. Kalabi Bomba, Mamadou Kani. Mamadou Kani, suivi de Tonyon Kele. Tonyon Kele, Bali Nene. Bali Nene, suivi de Belo. Bélo, suivi de Bélo Bakon, suivi de Mangan Konfata, Sunjata Keita. Sunjata Keita, Ambifora. Sunjata Keita, Ambifora. Mande kele folo keni tabu namu kana kele flananke ni ani kele savana keni negaboria kele nanina keni kambinya kele lurna keni kirina sevalan werila sunjata keita
aloha
sunjata keita ame fora sunjata keita ame fora
mamizaraga milani
Ibe me cheto tunye bilal bulama Bilal bulama ta dene tumbe lawalo Lawalo ta dene tunye latal kalabi Latal kalabi, damal kalabi Damal kalabi, laylatul kalabi Laylatul kalabi, kalabi bomba Kalabi bomba, mamadu kane Mamadu kane, ta dene tu tonyon kele Ta dene tunye bali nene ye Bali nene o ta den tunye belo Belo ta den tunye belo bakon ta den tunye mangan konfata sunjata keita Mande saraga milani Mande kadu sawani aye bo sunjata barana aye bo Sunjata nana aye bo sunjata barana aye bo mandijara nana
Tiken Jafakoli sur CFM, l'histoire des religions par Bernard Vachereau, curé de Caylus et historien des religions. Reprenons le fil.
Alors, nous parlions justement des pierres qui ornaient les reliures ou les coffrets de ces écrits. Alors, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas simplement de pierres décoratives. C'est pas un joli décor. Non. Ce sont des symboles beaucoup plus forts et beaucoup plus importants et significatifs, dont les origines remontent à la nuit des temps préhistoriques les plus reculés, on va dire aux origines de l'humanité. On ne prenait pas, par exemple, n'importe quelle pierre de silex pour tailler, et on ne taillait pas n'importe comment les silex. Ils avaient non seulement un but utilitaire évident, tuer les animaux, découper les peaux, etc., etc. Mais il y avait aussi un but religieux, car pour manger, encore fallait-il que l'on tue la bête. Pour qu'on puisse la tuer, il y avait des rites. On regarde, par exemple, certaines peintures pariétales de Lascaux, Altamira ou autres, et on voit des scènes de chasse. Bon. Alors, on voit très bien que la pierre jouait un rôle important. Or, aux yeux des historiens des religions et de certains spécialistes en histoire de l'art sacré, il apparaît évident que certains moines et certaines moniales étaient initiés au secret de ces symboles et aux significations spirituelles et religieuses. Ce sont donc là d'importants témoins de l'histoire de la pensée humaine que nous ont délivrés moines et moniales, témoignages d'autant plus importants que rares et fragiles, porteurs ou transmetteurs de connaissances immenses en danger de disparition. Ce n'est pas seulement typique des moines et moniales chrétiens. Regardons par exemple les moines et moniales bouddhistes du Tibet. Ils avaient une très grande connaissance de ces pierres. Et Alexandra David-Nel, dans ses nombreux récits et passionnants récits de témoignages au Tibet, Par exemple, moi je recommande de lire d'Alexandra David-Nel le contenu des textes secrets tibétains. Elle a fait un petit bouquin là-dessus, je l'ai chez moi. Quand je dis un petit bouquin, je veux dire un petit livre par la taille, mais grand par le contenu. Énorme. Alors, moine et monial, de toutes les religions d'ailleurs, dites-vous bien que par exemple, certains mouvements religieux, comme les soufis ou les derviches de musulmans aussi, ont des connaissances ésotériques de pierres très intéressantes. Moine et monial ont donc apporté et légué un immense trésor au patrimoine de l'humanité, en transmettant ses connaissances, malgré tous les obscurantismes et de toutes sortes, de ceux qui avaient ou ont eu intérêt à maintenir les petits dans l'ignorance et dans l'inculture.
Non, mais me dites pas qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à maintenir les petits dans l'ignorance.
Bien sûr que si. Est-ce que de nos jours, il n'y en a pas?
Mais non.
Mais bien sûr que si, de nos jours, il y en a. Des gens qui voudraient bien voir, par exemple, l'enseignement public tomber. D'accord ? Il y en a qui n'apprécient pas Monsieur Jules Ferry. Bon, eh ben, je regrette. Mais si, moi, j'ai pu aller, quand j'étais petit, au lycée, bon, et ensuite dans une école religieuse, bon, d'accord, mais d'abord au lycée, c'est grâce à un monsieur qui s'appelait Jules Ferry. Bon, et là, je lui rends grâce. Hein.
Ben écoutez, moi je trouve que c'était une bonne conclusion pour cette semaine. On reprend la semaine prochaine.
Comme vous voulez, mon ami.
Merci Bernard Vacheron.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacheron, curé de Caïlus. Historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.